Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal, Jocelyne Moussa Oponde.
Une semaine après la rentrée scolaire, les enseignants n'y dispensent toujours pas les cours dans les établissements publics. Le ministre de l'EPST promet de sanctionner les grévistes. Lancement à Tshilenge de la campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes filles. L'objectif de ce programme financé par le Fonds pour les femmes congolaises est de promouvoir l'accès aux services de la contraception en vue d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie de près de 150 adolescents. La période de l'état d'urgence sanitaire due au coronavirus a aggravé les violences contre la femme et la jeune fille de Goma et des environs. Ceci ressort du rapport présenté lors du colloque organisé récemment dans cette ville par Paul Institute. Notre invité Solange Kasangara nous en dira plus. Bonjour à tous. Rentrée scolaire, une semaine après, certaines écoles ont repris les enseignements, d'autres par contre observent un mouvement de grève. Constat de Radio Kapi. Entre-temps, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, Tony Mwaba, a prévenu de sanctionner les grévistes. Paul Matendo.
La rentrée scolaire, une semaine après, n'est pas toujours effective à Kinshasa. Dans plusieurs écoles, les enseignants n'ont pas répondu présent. C'est ce qui a été observé par exemple au collège Boboto, au lycée Bosangani et au lycée Bolingani, trois écoles conventionnées catholiques. Selon plusieurs sources, ces enseignants n'ont pas eu gain de cause après la réaction du gouvernement sur leurs revendications. Parmi ces revendications s'aligne par exemple l'augmentation des salaires des enseignants. Après le premier discussion avec les banques syndicales, il leur avait été octroyé une enveloppe de 20 000 francs congolais par enseignant. Pourtant, les syndicalistes exigeaient 100 000 francs congolais. Le ministre de l'EPST, qui tenait à la rentrée scolaire apaisée, a lancé une mise en garde à l'endroit des enseignants et certains syndicalistes grévistes. Les inspecteurs font la ronde des écoles afin de constater la présence effective des enseignants. Les premières sanctions des désactivations des salaires des enseignants ont été notifiées à l'administration du collège Boboto et à celle du lycée Bosangani. Pour le secrétariat général à l'EPST, certains enseignants grévistes risquent d'être remplacés par les nouvelles unités. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que Tony Mwaba rencontre ce lundi 11 octobre les coordinateurs des écoles conventionnées et l'intersyndicale de l'EPST.
Justement, la désactivation des salaires des enseignants du collège Boboto et du lycée Bosangani continue à susciter des réactions. La dernière en date est celle du syndicat des enseignants catholiques, Sinecat. Selon Jean Bosco Pouna, secrétaire général de ces syndicats, désactiver ces enseignants est une violation grave de la Constitution. Le Sinecat se réserve le droit de porter plainte contre le ministre de l'EPST. Il s'exprimait ainsi hier dimanche à Kinshasa. Jean Bosco Pouna est au micro de Paul Matendo.
Le Sinecat et la synergie des syndicats des enseignants de la RDC se mobilisent pour pouvoir porter plainte contre les ministres de l'EPST pour ces violations qui rappellent le beau vieux temps de la dictature. C'est en principe les ministres de l'EPST qui enveniment la situation sur terrain. Parce que en lieu et place de répondre au cahier des charges des enseignants, eh bien, les ministres recourent à des méthodes fortes. Voilà pourquoi le Sinecat et la synergie des syndicats des enseignants de la RDC qui a lancé le mot d'ordre de non-reprise de travail demande à tous les enseignants de pouvoir poursuivre la grève jusqu'à ce que le gouvernement va devoir répondre aux revendications des enseignants. Nous devrons également dire que la crise qui secoue le secteur de l'EPST, il est important que le Premier ministre et le chef de l'État puissent suivre cette situation avec beaucoup d'attention.
Pendant ce temps, le directeur de la province éducationnelle Kasaï 1 indique qu'il fera respecter les instructions de sa hiérarchie de désactiver les enseignants grévistes. Mais Léon Tosuessué note que depuis la rentrée des classes, les enseignants se présentent dans les écoles. Malgré ce constat, les inspecteurs sont largués sur terrain pour contrôler les cas d'absence. Il est au micro de François Kadima.
Nous n'avons pas constaté les cas de grève dans notre province, mais il y a plutôt des enfants qui n'ont pas répondu le premier jour de reprise de cours parce que les parents n'ont pas réuni suffisamment de moyens pour préparer la rentrée scolaire étant donné que les vacances n'ont pris que 3 semaines. Mais nous continuons à suivre la situation de très près. Les inspecteurs itinérants et chefs de poule sont largués. Les chefs d'antenne et les agents de Sécopé doivent faire leur travail de routine, de contrôle physique. Et dès que nous allons tomber sur des cas comme ça, nous allons exécuter les instructions de notre hiérarchie. Mais pour le moment, nous sommes contents de constater que notre province éducationnelle n'a pas connu le cas de grève. Les cours se donnent normalement.
Au Nord Kivu, le corps des assistants sociaux, organe de protection de l'enfant, exprime son inquiétude quant aux allures que prend la grève des enseignants dans les écoles publiques. Cette grogne sociale a pour conséquence une baisse du niveau de l'éducation des enfants, doublée d'une perturbation du calendrier scolaire. Pour son coordonnateur, ça fait 2 années scolaires consécutives durant lesquelles les enfants subissent ces bouleversements. Et puis, la synergie de syndicats des enseignants des écoles publiques de la ville de Béni décide de durcir leur mouvement de grève. Cette décision a été prise hier dimanche au cours d'une évaluation de cette grève déclenchée depuis le 4 octobre, jour officiel de la rentrée scolaire 2021-2022. Hormis leurs revendications, notamment la suppression des zones salariales et le paiement des enseignants nouvelle unité, une autre vient de s'ajouter, celle de la réactivation de leurs collègues de Kinshasa désactivés sur le fichier de paye. Christophe Kanyamboué, secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo, Sieko Béni, est au micro d'André Kitenge.
On n'a pas levé la grève. À la sortie de cette évaluation, nous avons encore durci notre mouvement de grève, surtout qu'on n'a pas encore été répondu de tous les points que nous avons réclamés, entre autres la prise en charge de tous les enseignants NU, la suppression de la zone salariale et l'amélioration de notre condition de vie. Maintenant, de cela vient de s'ajouter un autre élément qui ne figurait pas encore. C'est que nous demandons que nos camarades enseignants qu'on a désaffectés au niveau de Kinshasa soient réintégrés dans la paye. Et quand on n'a pas encore écouté que les amis sont déjà dans la paye, nous ne pouvons pas aller à l'école puisque nous ne comprenons pas comment on peut les rayer de la paye et dire ça au niveau de toute la nation comme pour ridiculiser les amis alors qu'ils ont réclamé leurs droits. Et donc, nous ne rentrons pas à l'école si les camarades enseignants ne sont pas intégrés dans la paye. Donc, c'est un élément qui vient de s'ajouter. Le message aux parents, on n'en a pas puisque nous ne représentons pas les parents, mais ils sont déjà informés que nous sommes en grève. Les enfants qui ne viennent pas s'en prier inutilement à l'école, que les enfants restent à la maison. Quand son encadré ne sera pas à l'école, c'est inutile qu'elle lui-même se présente.
Le remplacement des enseignants grévistes par des nouvelles unités annoncées par le ministre de l'EPST préoccupe au plus haut point la sénatrice Francine Muyumba du FCC. Elle a même adressé le week-end une question orale avec débat au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. La sénatrice Francine Muyumba estime que le droit de grève est constitutionnel et les grévistes ne peuvent en aucun cas être sanctionnés ni remplacés par de nouvelles unités. Tony Mwaba est par ailleurs invité à éclairer l'opinion sur l'ampleur de cette grève et surtout à retirer la décision sanctionnant les grévistes. On écoute la sénatrice Francine Muyumba au micro de Michel Kifindangoy.
Vous êtes tous sans ignorer que le droit des grèves est garanti aux travailleurs en vertu de l'article 193 de la loi de 2016 portant statut des agents des carrières et des services publics de l'État. Alors, le ministre doit nous dire s'il y a effectivement grève au sein des établissements publics d'enseignement primaire, secondaire et technique. Il doit aussi éclairer la chambre haute du Parlement sur les revendications des enseignants grévistes et ensuite éclairer notre chambre sur le cadre légal de sa décision. Nous espérons que le Sénat va juger recevable cette question considérant l'urgence et la nécessité. L'objectif est d'obtenir l'annulation urgente de cette décision par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, car jusqu'à présent, nous considérons que cette décision est illégale et elle ne cadre pas avec les lois de la République en la matière.
Au niveau de l'enseignement supérieur, les membres du syndicat Alliance du personnel scientifique du Congo de l'université de Lubumbashi remettent en cause plusieurs résolutions des états généraux de ces secteurs tenues il y a près d'un mois à Lubumbashi. Ils l'ont fait savoir le week-end au cours de leur assemblée extraordinaire. Pour leur président, le gouvernement devrait respecter les textes légaux qui ont fixé notamment les salaires du personnel scientifique à une certaine hauteur. On écoute le chef de travaux Maurice Banza Kayembe au micro de Jean Gandou.
Le personnel scientifique de l'université de Lubumbashi ont rejeté en bloc la résolution selon laquelle un chef de travaux doit être payé 30% du salaire du professeur associé et l'assistant 25% du professeur associé. Nous exigeons du gouvernement le respect des textes légaux. Le chef de travaux doit toucher 75% du salaire du professeur ordinaire et l'assistant doit toucher 50% du salaire du professeur ordinaire. Nous avons en même temps exigé du gouvernement la mécanisation de tout le personnel scientifique déjà à partir de ces mois d'octobre. Si nous ne sommes pas mécanisés, à partir du mois de janvier, les actions d'une grande envergure doivent être posées. Nous avons également rejeté la résolution selon laquelle le personnel scientifique ne peut pas occuper un poste administratif. Il y en a qui sont secrétaires académiques et même secrétaires de département qui ont réussi à soutenir leur thèse. Donc, dire que la charge administrative empêcherait le personnel scientifique à soutenir leur thèse, nous pensons que ce sont des raisons qui ne sont pas fondées.
Direction le territoire de Tshilenge dans la province du Kasaï oriental, lancement le week-end de la campagne de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive chez les adolescents et les jeunes. Ce programme de 6 mois financé par le Fonds pour les femmes congolaises est exécuté par l'ONG locale dénommée Enfants de l'Univers. D'après Patrick Moulumba, coordonnateur de l'ONG Enfants de l'Univers, ce projet a pour objectif de promouvoir l'accès aux services de la contraception en vue d'améliorer l'état de santé et la qualité de vie de près de 150 adolescents, dont 100 filles vivant dans la zone de santé rurale du Tshilenge. Cela à travers la prévention des grossesses précoces et non désirées. La sensibilisation se fera de porte à porte par 20 agents de santé recrutés pour cette fin. Patrick Moulumba, coordonnateur de l'ONG Enfants de l'Univers, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Nous avons ciblé la zone de santé rurale de Tshilenge. Vu que de ce côté-là, il y a beaucoup d'abus sexuels qui se font, il y a les mariages précoces et puis les jeunes se livrent à la prostitution à bas âge. D'après nos enquêtes, on peut mener cette campagne pour sensibiliser les adolescents et les jeunes de la zone de santé rurale de Tshilenge. La santé sexuelle et reproductive, il y a des méthodes contraceptibles, la planification familiale, la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles. Il y a aussi les conseils qu'on donne aux jeunes en rapport avec la sexualité. Pendant 6 mois, nous allons s'entretenir avec les jeunes, leur montrer l'utilité de la sexualité. Nous avons ciblé 144 adolescents et jeunes dans la zone de santé rurale de Tshilenge à atteindre pendant les 6 mois. Nous avons mis une stratégie de mener cette campagne porte à porte pour éviter la propagation de la COVID-19. À part ça, on fera aussi un focus group, échanger avec les jeunes. Ils doivent nous dire quelles sont leurs attentes, quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils ont comme connaissance sur la santé sexuelle et reproductive.
Dans le même registre, au Congo central, la zone de santé de Kimpangu, dans le secteur de Gombe Sud, territoire de Mbanzangungu, où a été détecté un cas de poliomyélite, connaît de sérieuses difficultés pour activer la recherche d'autres cas de cette maladie et qui rend infirme toute la vie dans l'aire de santé où la maladie a été notifiée. À en croire le chargé de la supervision dans cette zone de santé, Mpungu Mwandaroge, la zone de santé manque de mobilité pour contrôler la poliomyélite dans ce coin et contraindre sa transmission. Ces derniers plaident auprès du gouvernement et des partenaires pour une dotation en charrois automobile. Le point avec Nana Plourish Mambou.
Le cas de poliomyélite a été détecté dans l'aire de santé de Mbanzambata, une zone montagneuse située à 17 km du bureau central de cette zone de santé. À en croire les chargés de la supervision de cette zone de santé, pour briser la chaîne de transmission, la zone a entamé les mois passés une recherche active. Mais pour atteindre les normes, chaque mois l'équipe de la zone de santé devrait ratisser cette aire de santé. Faute de mobilité, cette mission est impossible. Mpungu Mwandaroge, chargé de la supervision dans la zone de santé de Kimpangu, en donne des raisons.
Nous sommes butés par le manque de moyens de placement. Donc c'est pourquoi le programme n'est pas tellement ciblé. Nous lançons un appel d'abord. Si le gouvernement peut voir l'état de la route de Kimpangu et puis doter des bureaux centrales des engins pour nous permettre de prendre ce terrain.
Outre la poliomyélite, la zone de santé de Kimpangu fait aussi face à des cas de malnutrition. Depuis la fermeture de la frontière congolo-angolaise de Kimpangu, les habitants de Kimpangu qui dépendent totalement de l'Angola vivent dans la précarité alimentaire. Pour traiter ces malnutris, la population se déplace jusqu'à Kulungongo pour l'achat des aliments nutritifs tels que les chenilles et les maïs. Mais à cause de la dégradation du tronçon Kulungongo-Kimpangu, la course par moto coûte 60 000 et ça complique la donne. Matadi, Nana plus riche Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale. Le procès des auteurs présumés de l'assassinat de Thomas Sankara s'ouvre ce lundi au Burkina Faso. 14 hommes, dont l'ancien président Blaise Compaoré, vont être jugés pour le meurtre du leader révolutionnaire en 1987 à Ouagadougou, près du site des commémorations de Thomas Sankara, là où l'icône panafricaine a été assassinée. Les vendeurs des rues de la capitale burkinabé sont présents pour ce procès historique. L'Irak a annoncé ce lundi l'arrestation à l'extérieur de ses frontières d'un haut responsable du groupe État islamique, Sami Jassim al-Jabouri, recherché par les États-Unis et présenté comme un responsable financier de l'organisation djihadiste. Il a été capturé dans une opération de service de renseignement à l'extérieur des frontières irakiennes, a tweeté le premier ministre d'Irak, Mustafa al-Kazimi. Washington offre une récompense de 5 millions de dollars pour toute information concernant ce responsable ayant joué un rôle essentiel dans la gestion des finances de l'État islamique, selon les départements d'État américains.
L'invité.
Le colloque international de Paul Institute du 29 au 30 septembre dernier a vécu à Goma. En présentiel comme par visioconférence, les participants ont pu être nourris avec plusieurs présentations intéressantes et dans divers domaines, à l'exemple de celui relatif à la sécurité de la femme et de la jeune fille pendant la période de l'état d'urgence sanitaire dû au coronavirus. Selon Madame Solange Kasangara de Paul Institute, qui a présenté les résultats de cette étude, cette période exceptionnelle a aggravé les violences contre la femme et la jeune fille de Goma et des environs. On écoute Madame Solange Kasangara dans cet entretien avec Jules Ngalawamona.
Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire une présentation dans ce colloque international. Ça concernait l'impact de l'état d'urgence sanitaire sur les violences dues aux gens. Est-ce que vous pouvez nous résumer tout ça, ou du moins l'essentiel ?
Les violences faites aux femmes existent depuis longtemps, en RDC et ailleurs à travers le monde. Mais l'état d'urgence sanitaire est venu aggraver la situation des femmes.
Dans quelle mesure, oui?
Au niveau économique, les femmes qui font le petit commerce transfrontalier ont été coupées de leurs sources d'approvisionnement. Le Rwanda et l'Ouganda, pour les zones transfrontalières, sont des lieux où ces femmes s'approvisionnent à un coût bas. Et coupées de cette source d'approvisionnement, elles n'ont pas su comment accéder à d'autres lieux d'approvisionnement qui sont éloignés de la ville de Goma et de Bunagana sur la frontière avec l'Ouganda. Cela a fait qu'il y a eu des problèmes psychologiques chez les femmes parce qu'elles n'ont pas pu prendre en charge leur famille et les enfants en particulier. Elles n'ont pas pu honorer leurs dettes et leurs engagements. Et cela est un grand problème pour elles. La deuxième dimension, c'est au niveau de l'encadrement des enfants. La fermeture des écoles a fait que les enfants ne soient pas bien encadrés par les parents, qui ne savaient pas comment s'y prendre, qui donnaient des punitions. En conséquence, beaucoup d'enfants, surtout filles, se sont lancés entre les bras de leurs petits amis, précocement dans le mariage. D'autres enfants, des filles ont eu des grossesses, des viols, et ainsi de suite. Il y a une autre dimension pour les femmes qui étaient loin de leur famille, soit dans d'autres territoires, soit dans d'autres pays. Elles ont été coupées de leur famille pendant plusieurs mois pour certaines. Et tout cela, ça constituait un problème psychique ou psychologique sur les femmes.
Mais aussi, vous l'avez mentionné dans la salle tout à l'heure, vis-à-vis de leur mari, les femmes se sont vues très exposées. Dans quelle mesure?
Oui, il faut dire qu'il y a des hommes qui ont décidé de quitter leurs femmes parce que les femmes n'étaient plus capables de subvenir aux besoins familiaux. Il faut noter que depuis plusieurs années maintenant, les femmes sont devenues des piliers de la famille. Ce sont elles qui subviennent économiquement aux besoins de la famille, incapables de continuer leur petit commerce parce qu'elles avaient connu des pertes. Certains hommes ont décidé de partir.
Ils ont décidé de partir, donc de quitter leur femme. Vous considérez ça aussi comme une violence ?
C'est une violence dans la mesure où, normalement, l'homme et la femme sont appelés à s'entraider pour subvenir aux besoins de la famille. Ce n'est pas parce que la femme a manqué que l'homme doit partir. Surtout que, en cette période où les hommes sont généralement ou majoritairement au chômage, il y a des femmes qui acceptent de rester. Et pourquoi l'homme ne resterait pas si la femme n'a pas pu satisfaire le besoin du ménage?
Maintenant, l'état d'urgence sanitaire est pratiquement terminé. Vous pensez que les violences faites aux femmes vont diminuer?
Je l'ai dit au début, les violences faites aux femmes existent depuis longtemps. J'espère et je souhaite que le fait qu'il y a un peu plus de liberté de mouvement, les uns et les autres vont éviter de verser dans la violence. Mais ça demande encore une fois une prise de conscience collective, une prise de conscience au niveau individuel des femmes et des hommes pour savoir que la violence n'est pas une valeur et il faut y sortir.
Madame Solange, merci.
Je vous en prie, monsieur le journaliste.
Et c'est par ici que ce journal coordonné par Élisée Chicota prend fin. Alain Goy, la mise en onde. Je suis Jocelyne Moussaou. Merci de nous avoir suivis.